Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure avec du cinéma et une interview aujourd'hui, celle de Rachid Ami, réalisateur de Pour la France. Alors, il se trouve que c'est un film tiré d'une histoire vraie, c'est l'histoire, eh bien, en partie du frère du réalisateur, et puis toi aussi, Guillaume, hein, t'as un film tiré d'une histoire vraie.
Oui, un effroyable fait divers qui a fait l'histoire, hein. Donc c'est l'histoire d'Emmett Till, donc le film du même nom.
Quant à Marine, elle parlera aussi d'un film adapté, eh bien, d'une histoire vraie, c'est l'adaptation du roman de Romain Gary, Chien blanc. Quant à toi, Manu, point de biopic.
Non, ouais, point de biopic, plutôt un film fantastique, le nouveau film de Shyamalan, Knock at the Cabin, et puis je ferai un petit tour d'horizon sur les sorties de la semaine.
C'est une nouvelle rubrique que nous inaugurons, mais nous commençons avec ce film qui était plutôt attendu parce que beaucoup apprécient Night Shyamalan, c'est Knock at the Cabin.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Je m'appelle Léonard. Content de te rencontrer, Owen.
L'éclatant talent de Night Shyamalan est synthétisé durant les 10 premières minutes prodigieuses de son nouveau long métrage, Knock at the Cabin, par la manière de faire naître une inquiétude tranquille en 2-3 plans iconiques déployant une imagerie très forte et identifiable. Une petite fille, Owen, s'amuse à capturer des sauterelles lorsqu'apparaît un homme tout en muscles, interprété par le sculptural Dev Bautista. Déjà, le contraste détonne entre le colosse et la petite fille, réactivant d'emblée l'univers du conte de fées avec les figures archétypales de l'ogre et de l'enfant. Les deux personnages entament une discussion étrange où la bienveillance presque nauséeuse de l'homme dérange, accentuée par la mise en scène oppressante, alignant une succession de cadrages obliques très proches des visages. Alors cet homme explique qu'il ne lui veut aucun mal, mais qu'il doit absolument parler à ses parents. Pourquoi cet empressement? Alors pour faire court, cet individu, accompagné de 3 autres, vont prendre en otage Wen et ses parents, Andrew et Eric, couple homoparental, dans un chalet perdu au milieu d'une forêt. Cette famille paisible se retrouve face à une situation incongrue. Les 4 illuminés ne souhaitent pas nuire directement, mais réclament un sacrifice. Parmi les 3 otages, l'un doit mourir de la main de l'autre afin de sauver l'humanité de l'apocalypse, dont les prémices se font déjà ressentir.
Nous avons été appelés et sommes unis par une vision commune qui maintenant s'impose à nous comme un ordre que nous ne pouvons ignorer. Nous sommes ici tous les 4 pour empêcher l'apocalypse.
Comme dans Split, toute la mise en place, parfaite en termes de gestion d'espace et d'intelligence graphique, renouant avec le meilleur de la série B où économie rime avec inventivité. Alors Knock at the Cabin prolonge les thématiques et dispositifs du cinéaste, du poids pesant de la religion dans le village, à l'home invasion des forces maléfiques venant perturber le cocon tranquille d'une famille paisible, comme dans Signe, avec en toile de fond l'idée de fin du monde déjà déployée dans Phénomène. La première demi-heure, efficace et prenante, jette un trouble, d'autant que le spectateur se trouve forcément du côté du couple homo, alors perçu par ailleurs comme exemplaire, comme si, par un effet, on va dire politiquement correct, le réalisateur avait un peu peur de froisser la communauté gay en jetant très peu d'ambiguïté. C'est-à-dire que là, on est dans la famille absolument parfaite. Ce qui est assez rare dans le fantastique, où généralement, on montre des dysfonctionnements, en fait. Alors, on est littéralement effrayé par ces 4 anges exterminateurs dont le but est de convaincre les sceptiques, tels des complotistes annonçant moult catastrophes. D'autant qu'après leur vision commune, ils se sont rencontrés par l'intermédiaire des réseaux sociaux, antichambre du réel, pire lieu pour alimenter les délires de quelques paranoïaques. Le grain de sable dans cette affaire ne tarde pas, ces gens sont parfaitement normaux, entre un instituteur, une restauratrice, une infirmière et un agent de sécurité. Au fur et à mesure, le doute s'installe, et s'ils avaient raison. Et c'est parti pour une deuxième partie, s'enfonçant naïvement dans une sorte de folie prosélyte, nous poussant à nous interroger sur notre foi et le dilemme imposé par le film. De mystique, croyant fortement au miracle, Shyamalan gomme toute ambiguïté et délivre son film peut-être le plus ouvertement religieux depuis Signe, réalisant presque l'antithèse du village, alors qu'il était une critique cinglante d'une Amérique repliée sur elle-même, opposée à toute forme d'ouverture. Knock at the Cabin, hein, derrière ses airs de petits films d'épouvante bien troussés, hein, déploie toute l'artillerie verbale, alors qui va de la dialectique vraiment à la rhétorique, hein, des prédicateurs souhaitant ramener à la raison l'égoïsme naturel des athées. À moins qu'il ne s'agisse en fait d'une, on va dire, d'une métaphore sur la croyance absolue dans le pouvoir de la fiction, désertée par une forme de cynisme dont ne se cache plus le cinéma hollywoodien contemporain. En bon centriste, hein, je penche pour les deux options, en espérant que Shyamalan revienne à son meilleur niveau la prochaine fois, même s'il n'a rien perdu de l'élégance et de la rigueur de son style. Alors, il n'est pas interdit non plus, hein, de ne pas trop prendre tout ça très au sérieux, hein, et de regarder le film comme un épisode de la quatrième dimension amusant, mais hélas, beaucoup trop long.
Knock at the Cabin est en salle depuis le 1er février. Mamie Till Mobley perd son fils assassiné parce qu'il aurait sifflé une femme blanche dans le Mississippi de 1955. Et elle ne se laisse pas faire, c'est Emmett Till.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Le corps d'Emmett Louis Till vient d'être retrouvé mort.
Je dois vous préparer.
Tu pourrais m'apporter le costume d'Emmett, le noir. C'est comme ça qu'il voudrait être vu.
Beau n'est pas en état d'être vu par qui que ce soit.
Tout à fait en état, justement.
Cette odeur, monsieur, c'est celle du corps de mon fils, empestant la haine raciale.
On l'a déjà vu, hein, au fil du temps, dans cette émission, hein, bah, s'il y a bien un genre dont la popularité ne se dément pas, bah, c'est celui du biopic. Donc à l'image de la comédie ou de l'horreur, il a la particularité de pouvoir parler autant d'une époque révolue, ce qui amène toujours les spectateurs dans une reconstitution la plupart du temps luxueuse et attractive, que de notre époque. Car si un biopic est bien fait, bah, il parle en général de la vie de son protagoniste principal, une vie qui sert à montrer comment un pays, une nation, voire l'état du monde évolue sur des questions de société et des considérations philosophiques et humaines, et sert donc de point de chute pour questionner l'état de nos civilisations actuelles. Et Mathilde, bah, dernier-né de ce genre de production, s'intéresse à l'histoire effroyable, hein, d'un lynchage qui a eu lieu dans les années 50. À la suite de l'assassinat du jeune Emmett Till, tabassé et abattu à bout portant pour avoir sifflé une jeune femme blanche dans le Mississippi encore très raciste de 1955, sa mère, donc Mamie Till Mobley, va décider de surmonter sa douleur incommensurable pour combattre ce crime haineux et faire changer pour de bon les mentalités du pays sur la question raciale. Elle bouscule les consciences en insistant lors des obsèques pour que le cercueil de son fils reste ouvert et que l'opinion publique comprenne l'horreur qu'il a subie. Et elle cède également les droits exclusifs de publication des photos de son fils mutilé pour que le monde puisse voir le vrai visage affreux, boursouflé, purulent de la haine raciale. Ce sera un premier pas pour Mamie Till dans son engagement dans le mouvement des droits civiques et elle se battra donc pour réclamer davantage de justice sociale et d'accès à l'éducation pour la communauté noire par la suite.
Le monde entier doit voir ce qu'on a fait à mon fils.
Les photos, elles ont transformé la vie des gens. Toute l'attention est braquée sur vous maintenant. Nous avons une opportunité. En quoi risquer ta vie lui rendra service?
Je dois me montrer forte pour mon enfant.
Et Mathilde devrait être le film de la révélation pour sa réalisatrice Chinoni Chukwu, encore inconnu du grand public. Alors tout y est, un grand sujet, un grand drame, de grandes performances, bref, la totale pour faire un carton plein aux Oscars. Et pourtant, de mémoire récente, qui comporte pourtant le visionnage de Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan, rarement un biopic aura sonné aussi faux, aussi distancié, mais aussi inoffensif. C'est d'autant plus étonnant, pour ne pas dire criminel, vu l'importance et la réalité du sujet, vu que le financement et la production du film font entièrement écho aux problématiques qui secouent la vie politique et sociale américaine de ces dernières années. Entre la place faite aux femmes, le combat des femmes contre un système patriarcal, le racisme latent et le traitement des noirs dans le système judiciaire américain, il y avait de quoi faire. L'injustement boudé et depuis oublié Détroit de Catherine Bigelow en 2017 avait pourtant été un parfait exemple de ce que l'on pouvait faire sur les mêmes thématiques et dans la même configuration. Pour ce qui plombe Emmett Till, en plus de son rythme neurasthénique, le film a un énorme problème de caractérisation. Le héros-titre n'a littéralement aucune profondeur et avec l'imagerie très religieuse présente tout au long du récit, il semble présenté comme étant prédestiné à être un martyr. Sa mère dit même lorsqu'elle est interrogée par un avocat, mon fils était un bébé parfait. Donc à partir de là, difficile de ne pas glisser sur les couches du Ripollin étalé sur la guimauve anesthésiante d'une histoire pourtant effroyable et bouleversante et impossible de ne pas froncer les sourcils sur le fond douteux. La mère obsessionnelle et campant maladivement sur le dos de son fils et ce dès la scène d'introduction ne suscite pas plus d'empathie en raison du surjeu compliqué de Danielle Deadwyler qui sait qu'elle joue une carte importante de sa carrière à avec ce rôle. À ses côtés, dans un tout petit rôle pour le coup, on retrouve Whoopi Goldberg en guise de caution de légitimité, mais ceux qui auront de la mémoire auront d'autant plus de mal avec ce clin d'œil qu'ils se rappelleront un film bien plus intelligent sur des thématiques similaires, signé Steven Spielberg et daté de 1985, qui s'appelle La couleur pourpre, où Goldberg livrait une performance aussi difficile que son sujet et véritablement remarquable. On espérait un drame universel et on se retrouve avec le pire du cinéma communautariste.
Il y a à peine un mois, j'avais un joli appartement à Chicago. J'avais un fils. Quand un malheur arrivait à des Noirs dans le Sud, je me disais, eh bien, c'est leur problème, pas le mien. Mais aujourd'hui, je sais que ce qui arrive à n'importe lequel d'entre nous, où que ce soit dans le monde, doit impérativement être notre problème à tous.
Alors, je dois bien avouer que ce qui m'a fait, moi, le plus d'effet dans ce film est son générique de début, qui s'ouvre sur le logo d'Orion, une compagnie de production phare des années 80 et que l'on n'avait plus vu depuis bien 3 décennies après une série d'échecs. Alors, c'est étonnant de revoir ce nom synonyme de grands frissons de vidéoclubs subversifs. Si vous avez grandi avec Robocop, vous savez de quoi je parle. Devenir désormais le porte-étendard de véhicules Oscar aussi matures dans leur traitement.
Emmett Till est en salle depuis le 8 février. Un bizutage dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr tourne mal. Nous parlons de Pour la France et c'est l'interview de cette émission, celle de Rachid Ami, le réalisateur.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Balance. Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
C'est un film, et ça n'est pas le premier, inspiré d'une histoire vraie, celle d'une mort, celle du frère du réalisateur Rachid Ami. En 2012, Jalal, alors élève à la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, ne va pas survivre à ce qui est appelé bahutage, mais qu'on pourrait aussi appeler un bizutage. Car c'est une épreuve humiliante physique dédiée aux jeunes recrues. C'est ainsi que le film commence. On voit de jeunes hommes tirés de leur sommeil dans une caserne, alors on imagine qu'ils partent sur le front d'un combat, pourquoi pas en manœuvre, mais non, ils obéissent à une tradition que seules les grandes écoles françaises semblent avoir regarder. Les voilà qui, dans le froid, doivent nager, tout habillés et dans une eau glacée. Sauf que l'un d'entre eux, qui s'appelle, pour les besoins de la fiction, Aïssa, n'ira pas au bout du défi. Le jeune homme de 23 ans meurt. La famille d'Aïssa, issue de l'immigration algérienne, s'attend à quelques égards, un enterrement aux Invalides avec les honneurs, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Non seulement l'école peine à reconnaître ses torts, mais avance l'idée que pour mourir pour la France, il ne suffit pas de porter le treillis militaire, il faut aussi mourir en mission. Une vulgaire nuit d'intégration ne compte pas. Le film de Rachid Ami donne à voir le combat pour la vérité que mène le grand frère de la victime. Alors il ne cherche pas à câbler l'armée, mais plutôt à présenter les forces qui s'y exercent. Entre ceux qui veulent faire éclore la vérité et puis les autres qui s'arc-boutent sur une tradition de grande muette. Mais outre les dysfonctionnements d'une grande institution, au travers de ce titre Pour la France, c'est aussi tout un pan métaphorique que Rachid Ami, issu d'une famille arrivée d'Algérie, veut mettre en lumière. Dans ce film, il est aussi question de cette France de l'immigration qui constitue notre histoire. Alors il est question des migrations. Nous sommes dans 3 lieux, 3 temporalités et 3 récits. Il y a l'Algérie, le pays des deux frères, avec le père qui ne viendra pas en France. Il y a Taipei, où Aïssa va partir un temps, donc à Taïwan. Il est alors dépeint autrement que comme un immigré de banlieue qui n'aurait d'autre horizon que de franchir le périph. Et puis il y a Saint-Cyr, et tout ce dialogue avec l'armée, incarné par des gradés dont le directeur de l'école, joué par un méconnaissable Laurent Lafitte. Alors c'est presque le portrait d'une famille, d'un parcours que dresse le réalisateur au travers de ce film qui part d'un drame. Il ne faut donc pas attendre le procès de l'armée, il y aurait des choses à dire puisque 3 militaires ont été condamnés pour homicide involontaire en 2020. Mais dans son propos, le réalisateur est clair. Dans sa mise en scène, alors, il reste un peu timide, restant sur la ligne du drame, sauf à un rare moment où les deux frères se retrouvent à Taïwan, loin de l'Algérie, qui les a vus naître, et puis loin de la France, qui les a vus grandir. Une des grandes forces de ce film est de sortir les personnages issus de l'immigration du terreau social habituel pour s'intéresser aux personnages, au regard de la famille, et puis de la trajectoire de cette famille. Pour la France de Rachid Ami est en salle depuis le 8 février. Nous avons pu rencontrer le réalisateur lors du festival du cinéma méditerranéen de Montpellier. On l'écoute.
Que ton courage soit notre loi, malgré le poids de vos bras.
Le titre du film, il a double vocation. Il y a une vocation de provocation, parce que moi, je disais toujours aux gens, c'est très drôle de voir une affiche aujourd'hui. Alors, le Front National monte, tout le monde s'énerve, l'islam, ceci, mais à un moment donné, vous aurez une affiche, ça sera marqué Karim Leclou, Chahine Boumedine, Lubna Azabal, Rachid Ami, et c'est marqué Pour la France. Et moi, je trouve ça très drôle. Le film, il parle du bahutage, d'un rite d'initiation. Moi, je veux dire, le rite d'initiation de l'immigré, il existe aussi, et c'est un bahutage qui dure 20 ans. Donc, si vous voulez, Il y a quelque chose dans le film, même dans ce qui est de petit, qui parle de quelque chose qui est beaucoup plus grand. C'est la ritualisation de l'immigration, c'est la ritualisation de l'intégration. Et dans cette ritualisation, aujourd'hui, on nous dit ben, l'intégration, c'est pas ça, l'assimilation, c'est mieux. Donc on est en train de changer, on veut changer ce rituel. Et en fait, il y a déjà... La France fonctionne comme une espèce de Saint-Cyr, en fait. Saint-Cyr, ce n'est juste qu'une mitonémie de la France.
Bonjour, Madame Saïdi. Toutes mes condoléances.
Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils.
Souhaitez-vous une cérémonie militaire ?
Oui, c'est important pour lui.
Faites le nécessaire.
Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire.
On s'était dit, on va faire un film qui soit en rupture avec tout ce qu'on attendait. C'est-à-dire, le film attendu, ça aurait été la famille contre l'armée, et ça dure une heure et demie, et on a des discours politiques, des discours d'opinion, des discours de valeur. C'est pas un cinéma qui m'intéresse, ça me correspond pas. Moi, ce que j'aime, c'est que le cinéma, c'est un geste artistique, c'est un geste de sens. Et donc, dès le départ, on voulait fragmenter cette histoire. Se dire que voilà, ben, on avait Antigone qui se passait à Paris, on se bat pour les funérailles d'un frère. On avait le comte en Algérie. Et ce comte, il avait dès la base quelque chose qui me semblait intéressant. C'était quelque chose de biblique. Dans le sens le plus... c'est l'Ancien Testament, quoi. C'est Abel et Caïn. Moi, je considère que je suis le gardien de mon frère. Et donc, le personnage d'Ismaël, lui, il choisit pas de casser la pierre sur la tête de son frère, mais il choisit de la casser sur la tête de son père. Et son père, lui, il représente quoi ? Ben, il représente à la fois l'éducation, la dureté et tout ça, mais il représente aussi l'État. Il représente aussi cette Algérie de l'époque.
Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire ?
Il était épuisé. Il m'a parlé de réveil en pleine nuit. Ma tête, je suis stupide et humiliant.
Aidez-moi !
Il y a dû y avoir un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure.
On sait tous que c'est à cause de votre bizutage de merde que mon frère est mort.
Présentez ! Hop !
Saint-Cyr, l'armée et le système, ils sont tout aussi responsables du décès d'Aïssa.
On a pris... énormément de temps à équilibrer le film pour qu'il y ait une ligne unique, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait trois temps, trois styles de récits, mais une seule dramaturgie. Donc il fallait que les choses s'imbriquent et que même si on vit une séquence à Taïwan, ça fasse avancer la France. Mais que même si on vit une séquence en Algérie, ça fasse avancer la France. Qu'on ait un sentiment que tout est un ensemble. Et c'est pour ça que dans la mise en scène, dès le départ, il fallait faire très attention à garder une unité générale dans le film, tout en ayant un petit peu quelque chose qui les distingue. Donc il y avait un équilibre d'approche sur comment on filmait les séquences. C'était aussi une écriture très en amont qui a eu lieu. On a découpé le film comme on l'a écrit, c'est-à-dire en faisant très attention à être subtil, en disant voilà, les plans séquences là, c'est celui-là, mais nos plans séquences, il ne faut pas qu'on les voit.
Ils l'ont buté, maintenant il faut qu'ils aient su. Il faut qu'ils lui rendent les honneurs.
L'honneur, c'est aussi l'image. Pourquoi allons-nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première erreur ?
Vous appelez ça une erreur ? J'appelle ça une faute.
Tu veux décider pour les morts, tu veux décider pour les vivants. Jamais de ta vie, t'as pris une bonne décision.
C'est le décret ministériel concernant les funérailles d'Aïssa.
Excusez-moi, mais c'est insuffisant.
C'était Rachid Ami pour le film Pour la France, qui est en salle depuis le 8 février. Allez, encore une histoire de droit civique, décidément. Romain Gary recueille un chien abandonné, dressé exclusivement pour attaquer les Noirs, et oui, et refuse de s'en séparer, mettant en péril la relation avec Jane Seberg, militante pour les droits civiques. C'est Chien Blanc, et c'est Marine qui nous en parle.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Bah qu'est-ce que tu fais là, toi, tu t'es perdu ?
Tu parles à qui, papa ?
Il y a un chien, viens voir. Rien.
Elle est une star du cinéma des années 60, elle est américaine, blonde, blanche, et elle est l'une des seules personnalités médiatiques à militer pour les droits civiques des personnes noires. Il est un romancier français célèbre, il a déjà gagné un prix Goncourt, et il en gagnera un autre d'ici quelques années. Il partage la vie et les combats de l'actrice qu'il aime, c'est Jane Seberg et Romain Gary, qui en ce jour de 68 sont comme une grande partie de l'Amérique, sous le choc après le meurtre de Martin Luther King.
Tu crois qu'il est mort ?
Mais non, regarde, il est sympa. On garde ?
Oui, on garde !
En tant que romancier qui aspire à l'unité humaine, les temps sont durs, comme le dit Gary de lui-même. Alors peut-être que le fait de recueillir un chien abandonné lui redonnera espoir, à lui qui est également un grand défenseur des bêtes. Seulement, lui et sa femme se rendent rapidement compte qu'il y a un problème. Batka, c'est le nom du chien, attaque les personnes noires et uniquement les personnes noires. Car Batka descend de la lignée des White Dogs, des chiens dressés pour attaquer les Noirs, autrefois pour attaquer les esclaves qui tentaient de s'évader, et dans les années 60, eh bien, ces chiens servent à attaquer les manifestants noirs. Le couple Cyberg-Gary, déjà bien abîmé, se fissure lorsqu'elle lui demande d'abattre le chien raciste, alors que Romain Gary demeure lui convaincu qu'il est possible de désapprendre la haine aux White Dogs.
Il est raciste, ton chien, il faut le tuer.
Alors on tue tous les racistes, puis après on élimine tous ceux qui pensent pas comme nous. Tu sais ce que ça fait d'enlever la vie.
Anaïs Barbeau-Lavalette est une réalisatrice québécoise à la filmographie très intéressante, quoique trop méconnue en France. D'ailleurs, Chien Blanc n'est pas sorti sur nos écrans malgré la présence au casting de Denis Ménochet. Documentariste engagée, femme de lettres, elle a aussi réalisé pas mal de fiction dans le long métrage La déesse des mouches à feu, portrait d'une adolescente toxicomane dans les années 90. Et en 2021, elle réalise Chien Blanc, adapté du roman de Romain Gary. Passé après Simon Fuller, qui a adapté le livre sous le nom de White Dogs, dressé pour tuer, en 1982, n'était pas une mince affaire, et Anaïs Barbeau-Lavalette choisit consciemment d'imprégner cette nouvelle adaptation de sa patte de documentariste. Alternant scènes de drame intimiste, travelling ralenti qui crée des plans d'une intensité et d'une rémanence absolue, et images d'archives qui documentent de façon très factuelle le racisme de l'époque, la réalisatrice parvient avec brio à conjuguer l'intime et le politique. Denis Ménochet, le plus polyglotte des acteurs de l'Hexagone, s'en donne à cœur joie dans le rôle mythique de Romain Gary, rôle bilingue qui plus est. Il est un colosse fragile qui ne peut se résoudre à abattre ce chien auquel il s'est attaché, car pour lui, qui était antispéciste avant l'heure, une vie animale ne vaut pas moins qu'une vie humaine. Le film est entrecoupé d'extraits du livre éponyme, donc Chien Blanc, qu'il écrit en parallèle de ses déboires amoureux et canins, couchant sur le papier ses tourments intérieurs. Une balle dans la tête de ce chien, ça s'appellerait défaitisme, écrit-il. Ou encore, j'ai l'impression de rater mon suicide en parlant de son incapacité à abattre son chien dangereux. Bon, spoiler, hein, il finira par réussir son suicide une dizaine d'années plus tard quand même.
Monsieur Romain Gary, vous êtes un écrivain connu pour votre humanisme. Vous êtes aussi le mari de June Seberg, grande actrice de cinéma et militante pour les droits civiques. Comment se fait-il alors que le contexte américain actuel n'ait pas encore fait l'objet d'un nouveau roman ?
Si je devais écrire un livre, ce serait d'abord pour questionner ma place d'homme blanc dans ce combat pour l'égalité.
Je ne suis pas victime, alors je ne peux pas me battre à ce sujet.
Tout est dans la façon de se battre.
Do you support the views of the Black Panther Party?
Do you understand what they're fighting for?
We don't.
Il y a de grandes différences entre Chien Blanc de Anaïs Barbeau-Lavalette et White Dog, réalisé par Simon Fuller et sorti en 1982. Chien Blanc est finalement une adaptation plus fidèle du livre de Romain Gary, puisque White Dog, lui, met en scène une jeune aspirante comédienne de Los Angeles qui s'attache au chien tueur. Alors, par ailleurs, précisons quand même qu'elle ne trouve absolument pas cela étrange hein, de voir son chien revenir chez elle, la fourrure maculée de sang, ce qui fait que l'intrigue met quand même quelques temps à se mettre en place. Si Simon Fuller fait de cette histoire une sorte de thriller qui s'interroge sur le bien et le mal, en empruntant les codes du cinéma d'horreur, Anaïs Barbeau-Lavalette, elle prend le chemin du drame intimiste. Le dilemme, les relations d'amour entre humains ou entre humains et animaux, se font et se défont dans le silence et entre les murs d'une maison. Si Simon Fuller termine son film dans une cage et sur une note plus que défaitiste, Anaïs Barbeau-Lavalette, elle, choisit l'espoir, l'espoir et la poésie avec des plans de course qui symbolisent une liberté retrouvée. Du coup, je ne peux que vous conseiller de découvrir les deux films qui sont deux superbes facettes, quasiment aux antipodes hein, l'une de l'autre, d'une même histoire profondément émouvante.
Chien Blanc de Anaïs Barbeau-Lavalette est en VOD. Il s'en passe des choses dans les salles chaque semaine et on est loin de tout traiter, alors on fait le point sur les sorties de la semaine avec une nouvelle rubrique.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
C'est toi qui t'y colle, hein, Manu, et pour ta première chronique sur les sorties, tu commences par un constat à la fois encourageant et déprimant.
Oui, bah, 18 films sont prévus à l'affiche le 8 février, ce qui est énorme, et 5 reprises les accompagnent, alors comme si ça manquait de films. Alors sans compter les nouveautés en VOD, sur Prime, Netflix ou Disney+, qui alimentent régulièrement leur plateforme de grosses productions d'un intérêt variable. Alors d'un côté, c'est encourageant, car la création cinématographique se porte bien, multipliant les propositions variées et stimulantes d'un cinéma exigeant à celui plus mainstream. Alors, le problème majeur tient à la diffusion des films sur le territoire. On peut légitimement se poser la question suivante. À quoi ça sert de sortir un film pour l'envoyer directement au casse-pipe, de le priver d'un minimum de visibilité en ne proposant qu'une poignée de copies disponibles? C'était le cas d'ailleurs du récent Earwig de Lucille Adiza-Lilovic, où il y avait très très peu de copies. Alors, un mystère auquel je ne répondrai pas aujourd'hui, mais qui ne cesse d'interpeller.
Alors, il y a quand même une grosse sortie le 8 février.
Oui, une comédie française, bah, bien de chez nous, hein, la suite d'Alibi.com. En 2015, Philippe Lachaud avait surpris son monde avec Babysitting, hein, une réussite mineure dans un genre où, en général, on attend le pire. Or, le film était plutôt rythmé et drôle, hein, mais après ça, Lachaud n'a guère confirmé, enchaînant comédie lourdingue et pastiche ratée. Alibi.com m'avait exaspéré, donc là, bah, je passe mon tour. Hein. Mais sur Abutiné, Olivier Bachelard est plutôt enthousiaste. Il évoque une comédie sympathique où les idées fusent entre les arnaques réjouissantes de Junio, le sort réservé à Patrick Fiori, invité à chanter au mariage, ou la recette d'une autre vie de prune toute particulière. Alors, aux côtés de Lachaud lui-même, Tarek Boudali et Élodie Fontan, les guest stars fleurissent de Didier Bourdon à Junio, en passant par Ariel Dombal et Nathalie Baye.
Et j'ai vu aussi plutôt une bonne critique, hein, parue dans le Monde sur Alibi.com, qui m'a surpris. Alors, il y a aussi deux autres films français importants dans les sorties du 8 février.
Alors, deux autres films français importants, alors pas forcément en termes de budget, hein, sortent ce mercredi, hein, très différents d'ailleurs l'un de l'autre. Il y a La Tour de Guillaume Niclou et La Grande Magie de Noémie Lvovsky. Hein. Alors, Noémie Lvovsky a l'air de poursuivre le filon entamé par Camille Redouble, hein, soit la fantaisie décalée, parfois teintée de surnaturel et de merveilleux. France, les années, ça se passe en France dans les années 20, hein, dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Martha, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. D'après Avoir à lire, hein, Fabrice Priaux présente le film comme une comédie légère, décalée et désuète qui devient un objet non identifié, tout à fait original, ne ressemblant à rien d'autre de connu et qui forcément ne conviendra pas à tous. À signaler que la musique est composée par le groupe Feu Chatterton. Alors, mais je dois reconnaître que La Tour m'excite davantage avec son postulat aussi minimaliste que passionnant, rappelant le cinéma de Carpenter. Au cœur d'une cité, les habitants d'une tour se réveillent un matin et découvrent que leur immeuble est enveloppé d'un brouillard opaque, obstruant portes et fenêtres, une étrange matière noire qui dévore tout ce qui tente de la traverser. Un pitch imparable et peut-être un bon film français d'épouvante, hein, en perspective. On croise les doigts, d'autant que les cahiers du cinéma sont plutôt élogieux. Marco Suzal décrit un film de genre évitant une trop grande abstraction théorique ou arty, et donc il loue l'originalité d'un film qui pousse à bout notre terreur la plus fondamentale. Que le monde devienne pour l'humanité aussi fatalement incontrôlable et énigmatique qu'un cauchemar.
Alors, impossible de citer les 18 films programmés depuis le 8 février, mais tu en as quand même retenu certains.
Parmi les innombrables sorties, dont je ne peux citer tous les titres, on pourra jeter un œil sur Zod et T.U. Frères du désert, le nouveau film du très inégal Éric Barbier, grand espoir du cinéma français, je le rappelle, il y a 30 ans avec Le Brasier, alternant donc le bon et le moins bon. Ce film d'aventure familiale avec Alexandra Lamy laisse néanmoins présager le pire, mais sait-on jamais. Mieux vaut jeter un œil sur Le Retour des Hirondelles de Li Rui Jun, un drame rural et naturaliste présenté à Berlin en 2022. Les critiques sur le net sont élogieuses, mais on attend le retour de la presse généraliste. Ou encore Astrakhan de David Depresséville, histoire d'un orphelin de 12 ans à l'allure de sauvage placé chez une nourrice. Et puis pour les tout petits, deux films d'animation en attendant les vacances sortent sur les écrans, Tititna et puis Sacré Momie, tous deux recommandés à partir de 6 ans. Et pour terminer, je conseille vivement alors F4Fake, le documentaire d'Orson Welles, qui est dans une poignée de salles, et surtout du magnifique Noir et Blanc, un premier long métrage d'une cinéaste française un peu oubliée, Claire Nevers. Le film, en noir et blanc, qui date de 86, portrait fascinant d'une relation teintée de sadomasochisme entre deux hommes, qui est traité sous la forme d'une série B sèche et ambitieuse.
Merci Manu. Ainsi s'achève Cinérama.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
j'ai passé un très bon moment.
C'est vrai.
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, il y aura encore une interview, celle du réalisateur de Animals. Quant à vous.
Eh bien, je parlerai du nouveau film de Hong Sang-soo, hein, La Romancière, le film, et Le Heureux Hasard.
Et toi, Guillaume?
Et moi, ça va être sanglant avec le projet Wolf Hunting.
À la semaine prochaine.